Bonjour et bienvenue à bord de ma mobylette cosmique sur les routes de la musique. Pour cette dernière édition de l'année, nous allons rencontrer des muses, des créateurs, des hommes transis d'amour, des femmes qui transgressent, des hommes que l'amour rend idiots, d'autres cruels, des femmes qui émancipent leurs sœurs, d'autres qui subissent un funeste sort. Enfin, toutes ces histoires qui sont la matrice de la musique, toutes ces histoires qui font le sel des chansons de tous les temps et sous toutes les latitudes, et qui nous font poser cette question fondamentale à laquelle je serais bien en peine de répondre, les histoires d'amour finissent-elles vraiment mal en général?
France Inter, les routes de la musique, André Manoukian.
Did you ever want it?
Michael Kiwanuka qui nous chantait « Cold Little Heart ». Continuons notre chemin sur les routes de l'amour. Elles sont tout terrain. Parfois c'est un boulevard où tout est beau. Et puis le boulevard devient un chemin escarpé et là c'est plus galère. La musique suit les fluctuations de l'amour et c'est avec la musique que l'on peut suivre les romances d'Emma Bardac. Mais qui est Emma Bardac? Cette cantatrice française est née en 1862. Elle est connue pour avoir été l'amante de Gabriel Fauré et l'épouse de Claude Debussy. Oui, elle s'est tapée les deux. On ouvre donc ses routes sur un triangle amoureux. Emma Bardac, Gabriel Fauré, Claude Debussy. Emma ne choisit pas, elle prend tout. À 17 ans, elle se marie tout d'abord avec un banquier parisien, Sigismond Bardac. Ils ont deux enfants. Jusqu'ici, pas de musique, mais la musique est en elle. Emma est une femme du monde et une chanteuse accomplie. En 1892, elle rencontre Fauré, le beau et brillant cinquantenaire. S'entame alors une relation passionnelle pendant l'été 1892, entre 93 et 96, à chaque anniversaire de la fille d'Emma. Fauré écrit une pièce pour piano à quatre mains, suite de Lee.
Et pour Emma, il compose la bonne chanson d'après Verlaine.
Isolée dans l'amour ainsi qu'en un bois noir, nos deux cœurs exhalant leur tendresse paisible seront deux rossignols qui chantent dans le soir.
La version de Verlaine, c'était ça. Écoutons maintenant la version de Fauré.
Seront deux rossignols qui chantent.
Et la main dans la main, avec l'âme enfantine de ceux qui s'aiment sans mélange, n'est-ce pas ?
N'est-ce pas ?
Mais l'été a une fin et les histoires d'amour aussi.
Et on passe à une autre histoire d'amour musical. À la fin de l'année 1903, Emma est présentée à Debussy. Leur amour commence un an plus tard. C'est du sérieux. Alors Emma et Sigismond divorcent cette fois-ci. Et Emma et Debussy se remarient en 1908 à Paris. Ils ont une fille, Claude Emma, surnommée Chouchou. C'est pour elle que Debussy écrira Children's Corner en 1909. Et pour Emma, Debussy lui promet 6 sonates pour divers instruments. Le musicien aura le temps d'en écrire seulement 3. Avant sa mort. C'est plus compliqué que les feux de l'amour, la vie passionnelle d'Emma. Résumons, Emma est mariée avec Sigismond, elle le trompe passionnément avec Fauré, puis Emma sort passionnément avec Debussy, alors Emma et Sigismond divorcent, et Debussy et Emma se marient, et de chacune de ces histoires naissent des musiques. Enfin, le mari banquier, lui, il n'a rien écrit pour Emma. Fauré et Debussy ont aimé la même femme, la cantatrice Emma Bardach. Emma fut l'épouse de l'un, la maîtresse de l'autre. Tous deux ont composé pour elle. Et l'on peut suivre les pérégrinations amoureuses d'Emma grâce aux compositions de ses amants.
Ça fait bientôt une heure que tu es arrivée. Que je t'ai vu t'asseoir à côté. Ça fait bientôt une heure sans oser te parler. Et soudain il arrive et vous vous en allez. Au revoir mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année. Au revoir mon amour, la vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée. C'est une autre aujourd'hui qui s'avance vers moi. C'est une autre et c'est toi qui me passe à côté. C'est un nouveau visage dont les yeux sont fermés, qui ne veut pas me connaître ni m'aimer. Au revoir mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année. Au revoir mon amour. La vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée. À ne pas me voir, où es-tu? Te prépares-tu chez toi à ne pas me rencontrer ou bien à m'ignorer? Où es-tu? À plus tard, mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année. À plus tard, mon amour, la vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée. À plus tard, mon amour, nous avons tout le temps, je ne suis pas pressé. Peut-être, mon amour, mieux vaut ne pas s'aimer qu'un jour ne plus s'aimer.
Dominique A, au revoir mon amour.
France Inter, les routes de la musique, André Manoukian.
Emma Bardac arrive à s'épanouir dans ce monde d'hommes. Anne Boleyn, elle, essaye, mais c'est bien plus compliqué. Il faut dire qu'elle est née 4 siècles avant Emma, en Angleterre, sous le règne du terrible Henri VIII. Emma inspirait ses amants. Anne, elle, paraît-il, inspira une chanson à Henri VIII. Oui, le terrible Henri VIII, celui-là même qui inspira Barbe Bleue, écrivit une douce et tendre sérénade pour la belle Anne qu'il voulait conquérir. Cette chanson, c'est Greensleeves. Le roi l'aurait écrite alors qu'il courtisait Anne et qu'Anne ne voulait pas de lui. Décidément, les amours impossibles inspirent. Hélas, mon amour, vous me maltraitez, à me rejeter de façon si discourtoise, moi qui vous aime depuis si longtemps, qui me délecte en votre compagnie. Henri VIII veut Anne Boleyn. Il l'a vue danser lors d'un bal masqué. Depuis cette apparition, il lui envoie des lettres d'amour. Mais Anne refuse les avances d'Henri. Ambitieuse, elle ne veut pas juste ajouter son nom à la liste déjà longue des maîtresses royales. Anne résiste et rejette ses avances en disant
« J'implore sincèrement votre majesté de cesser et ceci est ma réponse de bonne foi. Je préférerais perdre la vie que mon honnêteté. »
Ce refus ne fait évidemment qu'accroître le désir du roi. S'engage alors une féroce partie d'échecs. Le roi veut changer de reine pour faire d'Anne sa femme. Pour cela, il doit annuler son mariage avec la reine actuelle, sa femme Catherine d'Aragon. Henri trouve une excuse. Catherine d'Aragon n'arrive pas à lui donner d'héritier, elle fait que des filles. Et les filles, le roi, il n'en veut pas, à part en amante ou en femme. Et c'est pour cette raison que le mariage peut être dissous. Ça, c'est le 23 mai 1533. Et dans la foulée, le 28 mai, Anne se marie avec Henri. Anne Boleyn devint peu à peu la femme la plus puissante à la cour. Elle acquiert beaucoup d'influence et participe même à la vie politique. Elle ne plaît pas à tout le monde, évidemment. D'une, elle a évincé la première dame. De deux, elle s'immisce dans des affaires qui sont habituellement réservées aux hommes. Tout ça fait qu'elle est gênante. Ses ennemis orchestrent donc un complot pour se débarrasser d'elle. Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut se débarrasser de quelqu'un? On l'accuse des pires atrocités. On lance une rumeur terrible, on l'active et on fait s'étendre le feu pour qu'on ne puisse plus l'éteindre. Ça marche. Anne Boleyn est accusée à tort de trahison, d'adultère et même d'inceste avec son frère. Le procès est expéditif. Le 19 mai 1536, elle est décapitée à l'épée sur ordre d'Henri VIII. L'histoire commençait par Henri coupant des roses pour en faire un bouquet. Et à la fin, il ne coupe plus de fleurs, mais la tête de sa femme.
D'ailleurs, sur ces 6 femmes, Henri en fit décapiter 2.
Il avait une passion, un goût très prononcé pour les femmes. Un goût si prononcé qu'il eut 6 épouses. Il divorça 2 fois, il fut veuf 1 fois, et 2 autres de ses épouses furent décapitées sur son ordre. Quant à la 6e, Catherine Spare élut la vie sauve parce que le roi Henri VIII eut la bonne idée de décéder avant. Je crois qu'on peut dire que Henri VIII, c'est un petit peu Barbe Bleue sur le trône d'Angleterre.
On ne l'appelait que Barbe Bleue.
Barbe Bleue, alias Henri VIII, est avide de viande fraîche.
On dit, madame, que vous avez 2 filles fort belles. Aussi suis-je venu réclamer la main d'une des demoiselles.
Anne Boleyn cède aux avances du roi et devient reine juste en temps.
Le procès d'Anne Boleyn repose sur une accusation d'inceste avec son frère, le frère d'Anne Boleyn. Ça paraît un peu gros. Enfin, ce qui fait que je le trouve un personnage très antipathique, c'est ce côté cruel, ce côté impitoyable.
Henri VIII est cruel en politique et en amour.
On avait fait un horoscope d'Henri VIII. Uh-huh. Et on avait dit qu'il commencerait par être un agneau et qu'il finirait par être un lion. Peut-être cela l'a-t-il impressionné, enfin, a-t-il voulu suivre ce programme de vie.
Quoi ? Ce serait de la faute de l'astrologie si Anne Boleyn s'est faite décapiter ? La vie d'Anne a été écourtée par Barbe Bleue. Elle meurt à 36 ans.
Et elle aurait pu être oubliée dans les archives de l'histoire, n'ayant été reine d'Angleterre que 3 ans, 3 mois et 22 jours. Sauf qu'un fait remarquable fait d'elle une dame importante. Depuis son plus jeune âge, Anne a tenu un recueil de chansons. Avec ces chansons, on plonge dans l'Angleterre du XVIe siècle et dans cette époque sombre marquée par un roi fou, Henri VIII, frustré, impulsif et meurtrier. Dans une chanson qu'elle aurait écrite peu avant son exécution, elle dit
ô mort, berce mon sommeil. Apporte-moi un repos éternel. Emporte avec toi mon innocente âme exténuée. Pour ma mort, il n'y a pas de remède.
En effet, pas de remède. Les humains sont mortels, mais la musique, elle, reste vivante à jamais. Et dans ce recueil précieux, il y a une partie de la vie d'Anne que son mari a fait taire d'un coup de lame. Ces chansons sont enfin mises en musique 5 siècles après la constitution du recueil. Elles sont jouées pour la première fois il n'y a pas longtemps, en 2005. Une histoire d'amour qui commence par des chansons et qui s'achève par une tête qui tombe. C'est ce qu'on appelle une rupture radicale. Oui, quels que soient ses pouvoirs, la musique n'adoucit pas les meurtres.
I'm thinking of you. In my sleep. The night guitars. The worst kind of sad.
Arcave qui nous chantait Goodbye. Moi, j'adore ça.
André Manoukian, Les routes de la musique, sur France Inter.
Passons à un autre couple et un destin moins tragique. En même temps, on ne peut pas vraiment faire pire qu'une décapitation. Anne Boleyn fut une icône en son temps, au XVIe siècle. Et au XXe siècle, qui c'était? Eh bien, c'était Brigitte, tiens. Brigitte Bardot, sex-symbole des années 60. Brigitte Bardot a enchaîné les conquêtes. Elle a été avec Vadim, Trintignant, Samy Frey, Gilbert Bécaud, Jacques Charrier, Sacha Distel.
André, stop, là, vous n'allez pas nous faire toute la liste. Dites-nous plutôt de qui on va parler.
Eh bien, de Brigitte et de Serge, évidemment. Pendant 3 mois, entre octobre et décembre 1967, Brigitte Bardot et Serge Gainsbourg vécurent une passion folle. À cette époque, Brigitte était déjà maquée avec Gunther, un autre banquier. Décidément, ces banquiers aiment les chanteuses. Quand elle rencontre Serge, elle est séduite, il est séduit. L'actrice et le chanteur s'étaient rencontrés pour la première fois en septembre 59 sur le tournage du film « Voulez-vous danser avec moi ?». En novembre 62, Serge avait écrit des chansons pour Brigitte. Ils se connaissent donc déjà bien. Quand le 6 octobre 67, l'actrice l'invite à déjeuner chez elle à Paris. Sur le piano du salon, Serge lui interprète Harley Davidson. Bardot tombe sous le charme. Gainsbourg aussi. Quelques nuits plus tard, il lui écrit « Je t'aime moi non plus » qu'ils enregistrent ensemble. Brigitte raconte.
Un matin, Serge me réveilla pour m'annoncer
« Je t'ai écrit cette nuit la plus belle preuve d'amour du monde. »
C'était « Je t'aime moi non plus » d'une impudeur grandiose à notre image.
Mais ça ne plaît pas, Gunther. Forcément, tu veux pas entendre un mec faire l'amour à ta femme à la radio. Le mari exige que ce duo reste secret. Les deux amants obtempèrent et c'est la fin de leur histoire d'amour. Enfin, de cette histoire dans l'histoire.
Brigitte, Serge, racontez-nous votre histoire.
Je t'aime, je sais pas dire ça. Je sais dire je t'aime, moi non plus.
Brigitte et Serge se déclarent ce qu'ils peuvent et se le chantent comme ils veulent.
Je t'aime, moi non plus.
Pas question de faire un scandale avec ce titre parce qu'il est trop beau. Pour la première fois de ma vie, j'écrivais une chanson d'amour, voilà. Et voilà ce qu'il y en est. Je faisais des chansons cyniques et on les acceptait. J'écris une chanson d'amour, on la prend mal. Alors.
Les deux amants s'aiment en disant fuck à la morale.
Quand je suis amoureuse, je suis fidèle. Et quand je ne suis plus amoureuse, je ne suis plus fidèle. C'est ma moralité à moi.
Et cette moralité, elle risque pas de déclencher un grand nombre d'amoralités.
J'espère bien que si.
Bribri, elle est pas loin d'ici.
Je me donne à qui me plaît. Ça n'est jamais le même, mais quoi que celui qu'on n'a jamais bavé me jette le premier pavé.
Je sais pas, j'ai pas envie depuis, ça fait un bail. Et après, je suis passé à Jane Birkin.
On sait où ça commence, mais on sait jamais où ça finit. Ni pantoufles, ni sécurité.
Leur amour était sans issue.
Mais il n'en est pas pour autant stérile, car c'est de cette aventure que naissent des chansons comme « Je t'aime moi non plus »,« Bonnie and Clyde » et « Une chance Bibi ». Serge l'écrit en février 68. Elle commence par le premier mouvement de la symphonie numéro 9, dite « Du nouveau monde » de Dvorak, pour la musique, et par le poème « Le corbeau » d'Edgar Allan Poe pour les paroles d'ouverture. Elle ne parle pas de la fin de leur histoire. La chanson s'achève sur « Les clochettes d'argent de ses poignets agitant ses grelots, elle avança et prononça ce mot. Almeria, B initials, BB. » Almeria, c'est le lieu de la rupture définitive entre Serge et Brigitte Bardot. Brigitte Bardot qui dit
« Après notre séparation, il m'écrivit dans la détresse un vibrant hommage, Initials, Baby, qui reste la plus belle déclaration d'amour qu'un homme m'ait jamais faite.
Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells. Me vint une vision dans l'eau de Cels. » tandis que des médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. En haut des cuisses, elle est beauté, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de germain dans les cheveux. Clochette d'argent de ses paniers, agitant ses grelots, elle avança et prononça ce mot.
Évidemment, Gainsbourg, Initials BB. Quand Brigitte et Serge se séparent en chanson, John Baez et Bob Dylan se rencontrent, eux. Ils sont tous les deux nés en 41, ils sont tous les deux sur la même vague folk, où ils dansent habilement avec les guitares et les mots. Quand Bob débarque à New York, au début des années 60, il rêve de devenir prix Nobel et rockstar à la fois. De son côté, John Baez est déjà une star. Et le petit Robert Alan Zimmerman est déjà tombé amoureux d'elle devant son écran de télé. Il dit « Je planais rien qu'à la regarder. » Et puis il y avait sa voix à conjurer le mauvais sort. Elle était tombée comme d'une autre galaxie.
Farewell, Angelina, the bells of the crowd are being stolen by bandits. I must follow the sound.
À cette époque, Bob n'était qu'un gamin plein de rêves d'amour et de reconnaissance. Et dans ses rêves, il rencontrait John et il s'aimait. Parfois, les rêves se réalisent. En 63, ils se croisent dans le Village, l'épicentre de la contestation beatnik. Dylan vient de sortir son second album. Bob a 22 ans, il a le look d'un clochard céleste, il chante avec sa voix nasillarde. Il ne rencontre pas encore son public. Alors, John le prend sous son aile. Elle l'emmène en tournée, elle l'impose avec autorité à un public hostile. C'est carrément grâce à John Baez que Dylan se fait entendre et arrive à convaincre le public. Grâce à Baez, Dylan devient célèbre. Grâce à Bob, John enrichit sa plume. Bob et John, sacré couple royal du folk, partagent les causes collectives et une passion amoureuse. Mais la rupture se produit au printemps 65, quand Bob Dylan invite John Baez à l'accompagner lors de sa première tournée solo en Angleterre. Bob est devenu la vedette du couple. John espère, en l'accompagnant, jouer avec lui sur scène, mais non, elle reste en coulisses. Dylan ne veut pas partager sa gloire avec elle. Sympa le gars. Il faut dire qu'à cette époque, il est bourré d'en fait et il vole à des lieux au-dessus de la réalité. Alors il prend l'amour qu'on lui donne rien que pour lui. Et puis il se sent comme un dieu. Il enchaîne les succès. Highway 61 et Blonde on Blonde. John est humilié. Le couple ne peut plus s'entendre. John Baez s'en retourne pleurer dans sa guitare pendant que Bob se croit au-dessus des nuages. La rupture est consommée. Elle sera sentimentale mais aussi politique. John Baez pensait avoir trouvé un frère de lutte en Bob Dylan, mais lui refuse le statut de porte-parole d'une génération. Elle, elle prône la révolution des masses, lui, il opte pour la révolution intime, la quête de liberté personnelle. John pensait pouvoir changer le monde, Bob savait que c'était impossible. Dylan libère les esprits, John veut libérer les peuples. Forcément, il y a un problème d'échelle entre les deux.
Écoutons-les nous parler d'eux et du monde.
Ah, ah,
d'un côté, il y a John.
Je dois dire que j'ai eu la chance d'avoir deux dons. Le premier, celui d'avoir la possibilité de chanter. Le second est celui d'éprouver un sentiment de solidarité envers mes frères, mes sœurs, vous.
D'un côté, il y a Bob.
Why do you sing?
Pourquoi chantez-vous?
It's because I feel like singing. Parce qu'il a envie de chanter.
Quand vous chantez, lui a-t-on encore demandé? Avez-vous quelque chose à exprimer?
Non. Non.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie?
Rien.
Tears of rage.
Bob délaisse John et ses grands idéaux.
And life is brief.
Et John, qu'est-ce qu'elle pense de tout ça?
Bob Dylan, vous dites que, bien sûr, ça a été un coup de foudre professionnel, mais un coup de foudre amoureux, comme chacun sait. Ça reste une belle histoire pour vous?
I don't know. Is it a beautiful story?
Je ne sais pas. Est-ce que c'est une belle histoire pour vous?
Pour nous, oui.
That's enough.
Ça suffit.
Malgré les dissensions entre John et Bob, le fil entre eux n'a jamais été rompu.
Durant près de 40 ans, ils vont communiquer par livres, documentaires et chansons. Après tout, c'est un moyen de communication comme les autres. C'est sûr que c'est moins rapide qu'un texto, mais en même temps, c'est vachement plus classe, non? Quand Bob Dylan chantera le fraternel et sirupeux « Oh Sister », elle répliquera avec un « Oh Brother » aux paroles cinglantes.
Pendant que Bob dit
« Oh Sister, when I come to lie in your arms »«
Oh Sœur, ne suis-je pas un frère pour toi et quelqu'un méritant de l'affection ? Et notre but n'est-il pas le même sur cette terre, d'aimer et de suivre cette direction ?» John réplique avec « Oh Brother ».
Tu as des yeux doux comme Jésus, mais tu parles avec une langue de vipère.
You've got eyes like Jesus when you speak with a viper's tongue.
Dans Diamonds and Rust, écrite en 75, John Baez chante une ballade douce-amère sur leur histoire d'amour inextinguible.
Je sais que je suis condamné car ton fantôme est revenu me hanter, mais je pouvais m'y attendre car la lune est pleine ce soir. Et tu as décidé d'appeler et me voilà assise avec une main posée sur le téléphone. J'entends encore cette voix qui m'était familière il y a une éternité de cela. De toute manière, ça n'aurait jamais marché.
Quand on ne peut plus parler en face à face, on peut toujours s'écrire des chansons pour se dire « Je t'aime, moi non plus ». Allez, maintenant on écoute « Diamonds and Rust ».
Well, I'll be damned, here comes your ghost again. Just that the moon is full and you happen to call. And here I sit and on the telephone, hearing a voice I'd known a couple of light years ago, heading straight for a fall. As I remember, your eyes were bluer than robin's eggs. My poetry was lousy, you said. Where are you calling from? A booth in the Midwest. 10 years ago, I bought you some cufflinks. You brought me something. Memories can bring, they bring diamonds and rust. Will you burst on the scene? Washed phenomenon, the original.
where you stayed, temporarily lost at sea. The Madonna was yours for free. Yes, the girl on the half shell could keep you unharmed. Now I see you standing with brown leaves falling all around and snow in your hair. Smiling out the window of that crummy hotel over Washington Square. Our breath comes out, white clouds mingles and hangs in the air. Speaking strictly for me, we both could have died then and there. Another word for it. You were so good with words and at keeping things vague. 'Cause I need some of that vagueness now. It's all come back too clearly. Yes, I loved you dearly. And if you're offering me diamonds and rust, I've already paid.
John Baez qui nous chantait Diamonds and Rust.
Les routes de la musique. André Manoukian sur France Inter.
André, pourquoi c'est quand on se fait larguer qu'on fait les plus belles chansons ?
Parce que le musicien a ce privilège, c'est de transformer sa peine en mélodie déchirante qui vous brise le cœur. Et bizarrement, exprimer sa peine en musique nous guérit de notre propre peine. Alors, comment fait-on pour exprimer sa peine ? On joue en mineur. Par exemple, un certain compositeur du début du 19e siècle n'arrivait pas à séduire une comtesse. Et un jour, elle l'envoya se faire paître pour l'éternité. Il était tellement triste qu'il s'assied derrière son piano. Et puis, il a fait ça. Si elle était restée avec lui, il aurait fait ça. C'est vraiment moins bien, hein. Elle a bien fait de le larguer finalement, cette comtesse. Alors c'est quoi la différence ? C'est encore une fois un demi-ton, ce qui transforme ma tierce de majeur en mineur. Si je transpose ça en do pour que ce soit plus clair, c'est le mi, la tierce du do qui, descendu d'un demi-ton, va créer cette notion de, j'allais dire, de tristesse. Et quand on examine finalement ce rapport juste en descendant une note d'un demi-ton, on change complètement de caractère. Alors, encore une fois, dans la musique, il y a ce côté, j'exprime ma peine et en la jouant, elle me guérit de ma propre peine. Et pour ça, la grande musique d'expression de son mal-être, eh ben, elle s'appelle le blues, bien sûr. Et qu'est-ce qui fait le blues ? Il joue justement de l'ambiguïté de cette tierce. C'est-à-dire qu'il joue un accord majeur à la main gauche, do, mi bécart, sol, si bémol. Mais pourtant, à la main droite, au lieu de jouer un mi, je vais jouer un mi bémol en créant une belle dissonance. Waouh, elle pique un peu celle-là. Hein. Et pourtant, c'est d'elle que va venir toute l'ambiguïté du blues et tout ce charme. Je joue mineur et majeur en même temps. Et cette note, on va l'appeler la blue note. Alors, au lieu de jouer une tierce majeure, je joue une tierce mineure. Et vous avez vu l'effet que ça produit. Je joue un accord à la main gauche. Et puis, je joue un accord à la main gauche majeur, avec la septième, bien sûr, et à la main droite, je joue le mi bémol. Et là, j'appuie. Et là, ça fait mal. Je vais faire la même chose en fa. Et je peux faire ça dans toutes les tonalités. Ça, c'est un exercice qu'il faut que vous fassiez par cycle de quinte. Maintenant, mi bémol. Maintenant, la bémol. Voilà, la main gauche, vous jouez juste la fondamentale, la tierce et la septième pour donner le caractère. Et là, je suis en la bémol, c'est un peu compliqué. Au lieu de faire le do, eh ben, je fais le do bémol ou le si naturel. Et là, j'appuie vraiment là où ça fait mal. Ensuite, quand je vais me balader dans mon impro, je joue sur cette note qui fait mal. Et un petit chromatisme par là pour rajouter. Et ce qui fait que je peux placer ces cinq notes, do, mi bémol, fa, sol, si bémol, do, sur les trois accords du blues qui sont do, fa septième et sol septième. Et ainsi j'exprime une douleur, mais une douleur presque heureuse. Heureuse pourquoi ? Parce qu'elle se soulage juste en musique. Regardez comme je taquine ça, c'est-à-dire que je passe carrément en appoggiature de mon mi bémol à mon mi, de ma tierce mineure à ma tierce majeure. Je vais faire pareil en la. Et tout d'un coup, ma peine devient terriblement sexy. J'arrête là. C'est pas possible! Salut.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peu s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois, à coup de pourquoi le cœur de bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'enfuirai des balles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois le cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vu. Il est paru-t-il des terres brûlées dans le plus de blé qu'en meilleur avril. Et combien le soir pour qu'un ciel flamboie le rouge. Et le noir ne s'épouse-t-il pas? Ne pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder, danser et sourire, à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas.
Ne me quitte pas, la version de Nina Simone qui a transformé cette chanson de Brel qui ne marchait pas en tube. Eh oui. Au début, l'histoire d'amour est au beau fixe et ça fait de belles romances. Et puis c'est le drame, la rupture. Et même si ce n'est pas gai, de cette énergie du désespoir naissent certaines des plus belles chansons de l'histoire. Aussi, en cette dernière émission de la saison, apprenons à nous quitter pour mieux nous retrouver. Les chansons de rupture, ça fait toujours du bien au moral. D'une part, ça fait du bien à celui qui l'écrit. Alain Bachung disait que l'avantage du divorce, c'est que ça donne de bons disques. Pour lui, son divorce de 98 sonne comme fantaisie militaire. Dedans, on retrouve entre autres « La nuit, je mens ». « La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. »
« La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. » La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho.
L'écho de la douleur amoureuse reste là, mais les chansons, ça aide à les digérer. Dylan, encore lui, digère différemment son divorce avec sa première femme. Il écrit dans Idiot Wind. Tu es une idiote, bébé. C'est un miracle que tu saches encore respirer. Bon, c'est pas avec ça qu'il a eu le prix Nobel, le garçon. Mais en tout cas, il se lâche, il se défoule et ça doit lui économiser un paquet de mouchoirs. Anne Boleyn, elle se défoulait, mais pas sur les autres. Ses chansons, c'était son seul moyen de dire ce qu'elle avait sur le cœur, parce que c'est pas sa brute de mari Henri VIII qui allait la consoler de quoi que ce soit. Ensuite, les chansons tristes, ben ça fait du bien aux auditeurs. On remarquera que les plus gros succès, c'est des chansons de rupture comme Someone Like You d'Adèle, inspirées par ses affres sentimentales. Sinon, il y a aussi Lara Fabian, Stoney Chardin. D'où qu'elles viennent, en tout temps et en toute géographie, la rupture touche tout le monde. C'est un thème universel et ça fait du bien. Vous êtes sur votre canapé, emmitouflé dans un plaid, un mouchoir dans la main gauche, un pot de glace dans la main droite, les deux yeux en train de pleurer le départ de Michel. Vous appuyez sur lecture, selon vos goûts, vous mettez « Ne me quitte pas » ou « Pour que tu m'aimes encore ». Et en faisant ce geste, c'est un peu comme si vous vous prescriviez une dose d'antidouleur. C'est le site américain Medical Daily qui nous le dit, la musique nous aide à nous remettre de la rupture amoureuse. Et si c'est un scientifique qui le dit, c'est que c'est vrai. Voici donc un tout petit guide pour vous de survie en chanson. Si vous venez de vous faire larguer par votre copain, que ça fait plus d'une semaine que vous étiez ensemble, vous écoutez « Juste un selfie de toi » de Matt Pokora. Si vous venez de vous faire larguer par votre chien sur une aire d'autoroute, écoutez « Ne retiens pas tes larmes » d'Amel Bent. Ou alors écoutez des torch songs, ces chansons d'amour cramées dans lesquelles on supplie sans honte l'être aimé de rester juste encore 5 minutes de plus. Et puis quand vous sentez un changement peu à peu se produire en vous, c'est que le processus de guérison a commencé. Et avec lui, le type de chanson écoutée doit évoluer. Ou parce qu'il ne faut pas se complaire dans le malheur. Donc après la session « J'écoute de la musique triste », il faut passer à la session « J'écoute de la musique super joyeuse et super positive pour me booster le moral, me prouver que je suis guéri ». Et voilà, vous êtes prêts pour passer à autre chose. Maintenant, il est temps de se quitter. En ce samedi 2 juin, il fait chaud, les vacances approchent et mes chers auditeurs, nous allons nous séparer à notre tour. Ne soyez pas tristes. Mais si vous l'êtes un peu, pour vous consoler, vous n'avez qu'à écouter ça.
love me or leave me and let me be lonely. You won't believe me and I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing, but nighttime is my time for reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want to borrow. To have it today and give it back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Love me or leave me or let me be lonely. You won't believe me and I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing, but nighttime is my time for reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you.
Ainsi s'achève cette dernière émission de l'année, mais on s'est promis qu'on pleurait pas. En tout cas, moi je vous souhaite un bel été. Derrière les manettes, le virtuose Nicolas Slimani. À la réalisation, la virtuose Fanny Bouillon. À la programmation, la virtuose Muriel Pérez. À la voix, au texte, au délire, la virtuose Elsa Denac. Quant à moi, on se retrouve bientôt, c'est promis. Ciao.